Sur la signification de Noël, on y vient tous les ans. Le Christ est dans une crèche, qu'il est pauvre, qu'il s'humilie pour devenir homme, etc. C'est pas des choses banales. C'est vraiment des mystères, des grands mystères, ou un grand mystère. Et ça vaut toujours la peine de revenir et de l'expliquer, de l'approfondir. Cependant, cette fois-ci, aujourd'hui, je voudrais vous dire quatre mots pour souligner devant vous les conséquences de ce que nous fêtons aujourd'hui. Non pas la fête même d'aujourd'hui, mais ce que ça implique comme conséquence. Le fait que le Verbe de Dieu, la deuxième personne de la Trinité, se soit fait homme, qu'ait pris, il a adopté notre nature, il a partagé notre nature de manière à nous porter en lui. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça apporte? C'est pas un mystère que l'on célèbre comme un bon souvenir, si vous voulez, comme une merveille qui est arrivée à travers un événement assez simple. C'est vraiment une révolution radicale qui a eu lieu dans notre être. Parce que, on m'a fait remarquer ces jours-ci que la fête de Noël est au moins aussi importante que Pâques. Et effectivement, on appelle souvent Noël Pâques. Et on l'appelle la Pâques d'hiver. Pour des questions astronomiques, avec les conjonctions de la Lune, etc. On en a parlé quelques fois. Certaines années, on en a parlé. C'est pas de ça dont je veux parler. Mais même, regardez l'icône de la Nativité. La ressemblance qu'il y a entre l'icône de la nativité et le phénomène, le fait de la résurrection tel qu'il est raconté dans l'Église. Les deux se passent dans une grotte. Le Seigneur est enseveli dans une grotte et là, il est mis dans une crèche. D'un côté, il est emmailloté de l'ange à Bethléem et il est dans des bandelettes à Jérusalem, dans le tombeau. Les bergers sont témoins et sont des témoins avec les mages, témoins de la nativité, enfin de la naissance du Christ. Et ce sont des anges qui leur annoncent la bonne nouvelle. Et à la résurrection, c'est encore des anges, un ange ou deux anges, suivant les récits et les moments. Qui annonce la résurrection aux saintes femmes et aux apôtres. Vraiment, il y a je ne vous donne que ces exemples-là, mais il y en a beaucoup plus, qui montrent que la fête de Noël et la fête de Pâques, le mystère de Noël et le mystère de Pâques, c'est le même mystère. On peut dire d'une certaine manière que le mystère de Noël, si on découpe les mystères, si vous voulez, hein, ce qui se passe à Noël est encore beaucoup plus extraordinaire que ce qui se passe à la Pâque de printemps, à la résurrection. La résurrection n'est que l'aboutissement des 33 ans de la vie du Christ sur terre, qui dépasse la mort, ressuscite et nous ressuscite. C'est évidemment extraordinaire. Mais encore plus extraordinaire, le fait que Dieu, et il faut réfléchir, il faut penser, il faut méditer à ce Parce que ce qu'est Dieu, mais ce que représente Dieu, qui est Dieu? Que Dieu se fasse si petit, non pas pour naître dans une crèche dans la pauvreté, avec un âne et un bœuf pour lui souffler dessus, c'est la compagnie de Jésus, n'est-ce pas? Mais qu'il devienne tout simplement homme, qu'il devienne lui qui est l'incréé, il se fait créer, un être créé pour être un avec nous. Ça, c'est fulgurant, c'est impensable d'ailleurs. C'est tellement incompréhensible que beaucoup ne veulent pas, ne veulent pas ou ne peuvent pas y croire. Et si je puis dire, il aurait été suffisant que le Christ s'incarnât comme il l'a fait et n'ait pas de durée de vie sur terre. Le fait d'avoir pris notre nature, nous étions déjà en voie d'être sauvés. Il avait déjà tout accompli. Parce que les conséquences, et c'est là où je veux en venir, les conséquences de cette union de la divinité à l'humanité, c'est-à-dire à notre nature humaine, c'est que Dieu qui ne peut, si on vous veut donner une définition, on pourrait l'apprendre que dans Jean, Dieu est amour, Dieu est lumière, mais un amour vivant, un amour personnel, et une lumière personnelle, et qui ne demande qu'à se communiquer, communiquer aux hommes, eh bien, cet amour, cette nature divine, qui assume notre nature humaine à nous, fait que tout ce qui est sauvé en nous, or tout est sauvé si on le veut bien, tout ce qui est sauvé en nous ne peut être sauvé que parce que le Christ l'a assumé. Et il l'a assumé par son incarnation. Et il aurait suffi simplement qu'il naisse dans la grotte ou dans une maison. Et qu'après sa vie s'arrête là, ça aurait suffi pour nous sauver d'une certaine manière. Mais il voulait justement assumer tous les événements de notre vie de manière à pouvoir nous revivifier de l'intérieur. Par sa naissance, le Christ sanctifie, c'est-à-dire qu'il déifie. Sanctifier et déifier, c'est presque synonyme, si vous voulez, hein. Et il sanctifie nos propres naissances. Par la fatigue qu'il a acceptée, qu'il a supportée, dont il a souffert, mais qu'il a souffert avec reconnaissance, avec patience, avec amour, et notamment amour pour nous. Par sa fatigue, il sanctifie notre propre fatigue. Parce qu'il a marché, il assume aussi notre marche à nous, par son angoisse même, comme on le voit par exemple au jardin de Gethsémani. Par son angoisse, il transfigure aussi, il assume et il sanctifie nos propres angoisses. Par les tentations auxquelles il a résisté, mais par les tentations qui ont dû être terribles, pendant tout au long, au moins de sa vie publique, parce qu'on voit que dans l'évangile commence par les trois tentations dans le désert de Jéricho, et on voit qu'à la fin, il y a encore trois tentations au jardin de Gethsémani. Le fait que les évangélistes montrent ces deux séries de trois tentations au début et à la fin de l'évangile montre que c'est l'ensemble de sa vie qui était sous le signe de cette tentation auquel il a résisté. Eh bien, ces tentations-là sanctifient nos propres tentations. Mais sa vie, la vie qu'il mène, ou qu'il a menée, si vous voulez, en l'assumant pour nous, revêt une réelle efficacité pour chacun de nous. Il n'est pas pour nous un exemple, il ne nous a pas d'abord dit ce qu'il fallait faire uniquement. Il ne nous a pas montré non plus comment il fallait le faire en le faisant lui-même, mais il l'a fait pour nous. C'est-à-dire, il le fait aujourd'hui en nous, si vous voulez. Il y a tout ce qu'il a vécu, il l'a fait dans le temps, historiquement, à une période donnée de l'histoire, mais cette période donnée se dépasse et est dépassée, sous les mystiquement ou mystérieusement, et c'est ce qu'on en assiste, ce à quoi on assiste dans des liturgies comme celle que l'on a vécue tout à l'heure, de manière à ce que ça se répartisse, ça se communique à nous, et c'est aujourd'hui même que le Seigneur, à l'intérieur de nous, nous donne, nous fait participer au rayonnement de sa lumière, au rayonnement de son amour, mais d'une manière réelle et d'une manière concrète. Quand on parle du salut, Dieu ne nous transforme pas, j'allais dire hélas, quelquefois, ça nous éviterait bien des ennuis, bien des déboires, mais Dieu ne nous transforme pas par un coup de baguette magique. Ou de nos paf, on devient un autre homme, et ça. Mais il nous sauve de l'intérieur, c'est-à-dire qu'il entre en nous. C'est la raison pour laquelle on communie à l'Eucharistie, justement. C'est la raison pour laquelle on participe au sacrement de manière à ce que sa vie passe petit à petit en nous, de manière à ce que petit à petit nous participions à sa vie, et sa vie est amour et lumière, de manière à ce que nous aussi nous nous ouvrions à un amour. Il est dans l'humanité, en s'incarnant, il est comme le levain dans la pâte. C'était précisément l'évangile du samedi d'avant Noël, et que nous avons l'évangile de la liturgie d'hier matin. Concrètement, le Christ a atteint tout homme. Il porte avec lui ses tentations, partage ses épreuves. Et le pécheur, s'il accepte, et tout le jeu, et toute notre conversion, tout le but de toute la vie de l'Église, c'est de nous apprendre à entrer dans ce mystère d'amour qui est celui du Christ. Depuis qu'il s'est incarné, depuis qu'il a pris notre nature, il y a nous les hommes, il y a en nous deux attractions contradictoires. Une attraction qui nous éloigne de Dieu par l'amour de soi. C'est le péché. Tout péché est un amour de soi, d'une certaine manière. Ça peut se résumer à ça. Et ça, c'est notre nature déchue. On s'aime soi-même, on se fait plaisir, on se garde les choses, on se fait centre du monde. Mais il y a une autre, depuis que le Christ s'est incarné, mais ça se répercute aussi sur ceux qui l'ont précédé. Si ça se peut se répercuter 2000 ans après sur ceux qui sont à venir, ça peut se répercuter aussi pour ceux qui sont déjà venus. C'est ce que on a vécu ces derniers dimanches avec la célébration des fêtes des saints ancêtres du Seigneur et les épîtres pauliniennes correspondantes. Et il y a, depuis qu'il est entré en nous, depuis qu'il a pris notre nature, il y a une autre attraction qui tend à nous conformer à cet amour qui est présent en nous et qui est sa vie. C'est pas un amour sentimental qui deviendrait de notre monde déchu. C'est une autre forme d'amour qui est l'amour que le Saint-Esprit met dans notre cœur en nous, parce que il nous unit avec le Christ. Il fait que nos vies sont communes, et de cette manière on entre dans un dynamisme qui nous fait nous dépasser pour aimer l'autre tel qu'il est, l'accepter tel qu'il est, et ça dans toutes les dimensions de la vie de la vie humaine. Et le salut, finalement, le salut, c'est d'apprendre petit à petit, et pourquoi on peine sur terre, c'est d'apprendre petit à petit comment on peut aimer comme le Christ aime. Et si on communie à son corps et à son sang à la liturgie, si on se confesse de nous laisser aller à la première attraction dont je vous parlais, c'était l'attraction qui les éloigne du Christ par amour pour soi, on participe, on accepte ou on désire, tout le monde, on essaie d'ouvrir son cœur à ce mystère de l'entrée du Christ en nous qui amène cette autre forme d'amour pour que nous aimions librement comme lui aime et comme il nous aime nous-mêmes, de manière à créer cette unité du corps du Christ. Voilà la conséquence de l'incarnation. Après, et ne me faites pas dire ce que je ne dis pas que la résurrection, que la passion et la résurrection ne sont rien du tout. Mais le Christ ne nous sauve pas, ne nous a pas sauvés simplement parce qu'il est mort sur la croix et qu'il est ressuscité. Il nous a sauvés parce qu'il a pris notre vie et qu'il a vécu comme nous, qu'il a peiné, qu'il a appris à grandir, qu'il a appris les choses. Il s'est ouvert à la vie comme un homme, tout en étant Dieu. Parce qu'il a cette faculté inconcevable pour nous, on ne peut pas la comprendre, on peut en deviner quelques aspects de temps en temps. Et parce que dans cette union des deux natures qui sont les siennes, le Christ a cette faculté ou de montrer sa gloire, ou de taire, d'effacer, d'occulter, je ne sais pas comment dire, d'occulter sa gloire pour vivre uniquement comme un homme, sans faire semblant, si vous voulez. Pas comme un homme, mais en tant qu'homme. À certains moments, il peut montrer sa gloire quand il parle d'autorité, quand il fait des miracles, quand il est transfiguré, quand il ressuscite, etc. Il montre sa gloire, effectivement, à des moments. Mais à d'autres moments, il renonce, c'est tout le problème de le thème de la kénose, il renonce volontairement à sa vie, à l'expérience de sa vie divine, pour vivre en tout par amour pour nous, comme nous sommes. Et c'est ça qui nous sauve. Et le mystère de Noël, c'est essentiellement ça, si vous voulez. Et si vous voulez vous réjouir véritablement à Noël, c'est en rendant grâce à Dieu, si, comme les anges nous l'ont demandé quand ils sont apparus au berger, de rendre grâce à Dieu, parce qu'effectivement, depuis ce moment-là, notre vie a changé. Et ce n'est plus nous qui vivons. Bien sûr que nous vivons. C'est nous qui prenons des décisions, bonnes ou mauvaises, mais la vie chrétienne consiste à avaler, si je puis dire, effacer le terme aussitôt que je le dis, c'est pas le terme qui convient, mais de se nourrir, voilà, c'est le terme maintenant, de se nourrir de la vie du Christ, de manière à apprendre à vivre ce qu'il est, ce qu'il dépose en nous, c'est-à-dire l'amour et la lumière. Que cet amour et cette lumière vous remplissent de joie, que vous en rayonniez vous aussi, moi aussi d'ailleurs. Et prier pour ma conversion pour que je puisse avancer un petit peu dans ce sens-là aussi.